Europe Midi. Alexandre Lemaire.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Il est midi et demi. Les transports espèrent éviter la pagaille. Dès lundi, passe sanitaire obligatoire en avion ou en train. Le secteur s'organise à la hâte. Les remerciements d'Emmanuel Macron aux professions concernées par le pass. Nouvelle vidéo Instagram, le chef de l'État renouvelle ses appels à la vaccination. Grincement de dents chez certains restaurateurs et commerçants. Une journée ville morte demain à Cambrai dans le Nord. Contre le pass sanitaire, nous serons sur place. Coup de tonnerre sur la planète foot. Lionel Messi va quitter le FC Barcelone. À suivre également un point complet sur les JO avec cette nouvelle médaille assurée pour les Bleus.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ceux qui ont le pass prendront le train. Le pass sanitaire sera exigé dès lundi dans les transports longue distance, avions, trains et autocars. Il va falloir prendre des marges pour ne pas rater l'embarquement Maud Descamps. Si on doit prendre le train ou l'avion lundi, comment ça va se passer?
Alors très concrètement, si vous vous rendez en gare ou dans un aéroport lundi matin, il faudra vous munir de trois choses. Votre titre de transport, bien sûr, votre masque et votre pass sanitaire en version numérique ou papier. Vous pourrez être contrôlé pour les gares. Donc à quai, à bord du train ou alors à sa descente, dans les aéroports, la mise en place du pass sanitaire lundi ne changera pas grand-chose puisque les compagnies aériennes effectuaient déjà des contrôles depuis plusieurs semaines pour les vols internationaux. Votre pass pourra être contrôlé en amont sur Internet ou alors à l'aéroport au moment de l'embarquement. En tout cas, Air France ne prévoit pas d'allongement des temps d'embarquement. Du côté de la SNCF, on dit essayer de fluidifier au maximum les contrôles pour éviter justement d'allonger les temps d'attente. Le transporteur a prévenu il y a quelques jours qu'il y aurait des contrôles massifs. C'est un défi pour la SNCF puisqu'il y a entre 300 et 400 000 voyageurs par jour au cœur de l'été. Il y aura également une grande campagne de communication en gare avec des annonces sonores, des stands d'information. Il y aura aussi des barnums de pharmacie pour des tests de dernière minute. Des gilets rouges et des gilets bleus sont également déployés. Vous savez, ce sont ces volontaires qui guident les voyageurs en gare. Et enfin, sachez que si vous n'avez pas de passe sanitaire, votre billet sera échangé ou remboursé sans frais. En revanche, si vous décidez de quand même monter à bord du train, vous risquez une amende de 135 euros.
Merci Maud. Un vent de fronde contre le pass sanitaire à Cambrai dans les Hauts-de-France. Les restaurateurs et les commerçants préparent une opération ville morte pour ce samedi. Hostiles au contrôle du pass sanitaire de leurs clients, ils garderont rideau baissé. Reportage Europe 1 à Cambrai, Maximilien Carlier.
Balance ton QR. Voici ce qui est écrit sur l'affiche collée devant le café. Le commerce, le pass sanitaire, Laurent, le gérant n'en veut pas. Demain, rien, rideau baissé.
On va fermer quand même de 8h à 22h un samedi. Moi, je suis en plein cœur du marché. Donc c'est pour moi une très très grosse journée. Une perte de chiffre d'affaires, nos employés qu'on va mettre au repos.
Mais pas le choix, il faut se faire entendre. Selon ce tenancier, ils sont environ 70 patrons à participer à l'opération. Des responsables de salles de sport, des restaurateurs. Morgane, propriétaire d'un bar à thème.
De devoir contrôler un pass sanitaire, il n'y a pas plus aberrant comme décision du gouvernement de faire ça. Le temps que ça va prendre, les ennuis que ça va créer, les tensions, ça va être n'importe quoi. Toute la France sait que ça va être n'importe quoi aujourd'hui.
À quelques mètres de là, en terrasse, Gérard boit son café. Demain, il le prendra chez lui, du coup. Ce Cambrésien ne comprend pas cette colère.
Je ne suis pas très favorable à ça parce que la pandémie reprend et il faut bien prendre des mesures en conséquence. Le problème se poserait moins si 80 ou 90% de la population était vaccinée.
Alors ces restaurateurs et cafetiers ne sont pas contre le vaccin, ils s'opposent au pass sanitaire et au lieu d'être dans leur établissement fermé, ils échangeront devant l'hôtel de ville avec les habitants. Cambrai, Maximilien Carlier, Europe 1.
Ouais, pas toujours simple de se faire à l'idée du pass sanitaire qui va s'imposer lundi dans notre quotidien. Emmanuel Macron le sait, le chef de l'État a posté ce matin une nouvelle vidéo sur Instagram, remerciement et nouvel appel à la vaccination.
Un grand merci à nos restaurateurs, à nos cafetiers, à nos directeurs de cinéma, de théâtre, de festival. Je sais les efforts qui leur sont demandés et je les remercie infiniment de tout ce qu'ils font durant cet été, qui est un peu particulier, où nous continuons de nous battre contre cette épidémie. Merci à chacun d'entre vous aussi d'accepter ces règles collectives. Et puis un deuxième message très simple, faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner, faites-vous vacciner. C'est une question de citoyenneté. La liberté, elle ne vaut que si la liberté des autres est préservée. Or, votre liberté, c'est en effet de pouvoir vivre. Notre liberté, c'est de pouvoir vivre et exercer nos choix. Mais elle ne vaut rien si, en exerçant notre liberté, nous contaminons notre frère, notre voisin, notre ami, nos parents ou quelqu'un que nous allons croiser dans un événement. C'est plus être libre, c'est devenir irresponsable.
Le pass sanitaire étendu en France à partir de lundi prochain, donc, et dès aujourd'hui en Italie. Nos voisins italiens l'appellent le pass vert, Caroline Baudry, et pour eux, ça y est, depuis ce matin, c'est obligatoire.
Oui, pour entrer dans une salle de cinéma, un musée, une salle de sport, ou encore pour s'installer à table à l'intérieur d'un restaurant, dans les quartiers touristiques à Rome, ces restaurateurs s'y préparent depuis 2 semaines déjà. Ils ont accueilli et contrôlé leurs premiers clients ce matin.
On a une application pour scanner les passes verts. Bon, c'est pas très sympa de demander ça à nos clients, mais si on peut faire quelque chose pour aider avec cette pandémie, c'est bien de le faire.
Pour moi, ce n'est pas assez. On ne peut pas demander la pièce d'identité. Donc je ne peux pas savoir si le pass appartient vraiment à la personne qui me le présente. Je ne veux pas plus de restrictions, mais qu'elles aient plus de sens. Là, par exemple, le pass n'est même pas obligatoire dans les transports.
Alors effectivement, pas de pass dans le métro ou le bus, mais il sera obligatoire dès le 1er septembre pour les passagers des vols intérieurs, des trains longue distance et de certains ferries. Puis, à la rentrée, les étudiants des universités devront montrer leur pass. Pareil pour l'ensemble du personnel enseignant dans le pays, qui verront même leur salaire gelé s'ils dérogent à la règle. Ce pass vert italien doit justifier d'une vaccination, d'une infection récente ou d'un test négatif de moins de 48 heures. Légère différence avec la France, n'avoir reçu qu'une seule dose de vaccin suffit pour l'obtenir. C'est le cas aujourd'hui de 75% des Italiens.
Merci Caroline.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
Ce coup de tonnerre sur la planète foot, donc Messi quitte le FC Barcelone. Vous avez suivi la conférence de presse ce matin, Cyril de la Morinerie. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les conditions de départ et peut-être sur une éventuelle arrivée au PSG?
Alors écoutez, le président du Barça, Joan Laporta, a confirmé ce matin que le club n'avait pas les moyens de conserver sa pépite. Notre situation économique est affreuse, c'est un investissement qui était trop risqué. Cela aurait mis le club en danger, fin de citation. Le Barça est très endetté et ne pouvait plus supporter le salaire XXL de son joyau estimé à 75 millions d'euros environ net par an. Alors Joan Laporta affirme que Lionel Messi voulait rester. La star vivrait d'ailleurs très mal cette douloureuse séparation. Drama Messi Seba, se désole la presse espagnole, notamment le quotidien Sport. Les supporters sont également très marqués par ce départ. Ce matin, à son arrivée au centre d'entraînement à Barcelone, Antoine Griezmann a été hué. Des fans lui reprocheraient d'être à l'origine du départ de Messi, ce qui évidemment est faux. Où va rebondir le sextuple Ballon d'Or? Alors peut-être aux États-Unis ou au PSG. Paris est en contact avec l'entourage du joueur et les stars parisiennes en rêvent ce matin. Une photomontage sur les réseaux sociaux montrant Messi avec le maillot du PSG a été liké par Neymar. Neymar qui n'a jamais caché son désir de rejouer avec l'Argentin, son ancien partenaire du Barça.
Et le retour de la Ligue 1, Cyril. La nouvelle saison démarre ce soir. Premier match Monaco-Nantes à suivre sur Europe 1, un coup d'envoi à 21h. Et puis Lille donc, qui remet son titre en jeu, mais Paris reste favori.
Voilà, Lille devra être très fort pour conserver sa couronne. L'entraîneur Christophe Galtier parti à Nice a été remplacé par Jocelyn Gourvennec. Le gardien Mike Maignan a quitté les Dogs. Alors c'est vrai, les Lillois ont battu le PSG lors du Trophée des Champions, mais Paris jouait sans ses stars et Neymar et Mbappé notamment. Paris qui reste donc le grand favori pour aller chercher son 10e titre de Ligue 1 de son histoire. Le club de la capitale qui bénéficie d'ailleurs de renforts de poids avec notamment l'ancien joueur du Real Madrid Sergio Ramos, le milieu Wijnaldum ou encore le meilleur gardien donc de l'Euro et meilleur joueur de l'Euro, l'italien Donnarumma. Il faudra surveiller également l'Olympique de Marseille qui a fait un très beau recrutement et qui n'a perdu aucun match lors de sa préparation. Lyon, sans Memphis Depay qui est parti au Barça, a changé d'entraîneur. Exit Rudy Garcia et bienvenue à l'ancien coach de l'Ajax, Peter Bosz. N'oublions pas Monaco qui dispute également la Ligue des Champions. Nice, propriété d'un milliardaire anglais, puis Bordeaux espère retrouver des couleurs avec son nouvel entraîneur, l'ancien sélectionneur de la Suisse qui, souvenez-vous, avait éliminé la France à l'Euro, Vladimir Petkovic.
Une nouvelle saison, Cyril, marquée par le retour du public dans les stades.
Oui, pour la première fois depuis le début de l'épidémie de coronavirus, les stades seront pleins. Fini les huis clos ou les jauges réduites. Le port du masque ne sera pas obligatoire. C'est le retour des folles ambiances, des copes bruyants. Le 13e homme va porter les équipes à domicile. Un vrai plus pour les joueurs, estime l'ancien joueur, donc Jimmy Algerino.
Ça sera une aide et puis ça sera un soutien inconditionnel pour les joueurs et puis surtout pour essayer de faire une belle saison. Tout le monde a envie de regoûter au vrai football sur le terrain et aussi dans les tribunes avec ce public qui pousse. Qui amène un plus pour les équipes, surtout à domicile, parce qu'on a vu que l'année dernière, beaucoup de victoires à l'extérieur. Donc je pense que ça va amener un rééquilibrage au niveau des matchs.
En revanche, un pass sanitaire sera exigé à l'entrée des stades. Il faudra montrer à l'entrée donc une attestation de schéma vaccinal complet ou un test PCR négatif de moins de 48 heures. Avec la menace du variant Delta, bien sûr, il n'y aura aucun passe droit.
Et à partir de lundi, donc merci Cyril. Les Jeux Olympiques de Tokyo, les handballeuses françaises viennent de se qualifier pour la finale. Corinne Boulou, c'est une médaille de plus assurée pour la France.
Oui, belle dynamique hein, dans les sports co présents à Tokyo dans le dernier carré, puisqu'en attendant le basket féminin, 4 des 5 équipes encore en lice seront en finale ce week-end. Tout à l'heure, les handballeuses françaises ont donc assuré leur place en finale après leur victoire sur les Suédoises 29-27. Le hand féminin s'offre ainsi sa deuxième finale consécutive olympique et peut encore rêver d'un premier titre dans son histoire. De quoi savourer déjà, comme le reconnaît le sélectionneur des handballeuses, Olivier Krumbholz.
Bien sûr, nous sommes très heureux. C'est une grande victoire. Une grande victoire parce que le niveau de jeu était assez exceptionnel. On savait que c'était une excellente équipe qui a fait des progrès remarquables depuis quelques mois. On a réussi à garder la tête froide en deuxième mi-temps quand on avait fait un écart et que la Suède revenait vers nous. On a continué à marquer des buts et je pense que pour nous c'est bien sûr une très grande satisfaction. On est très fiers de ce résultat. C'était un match exceptionnel et très heureux de l'avoir gagné.
Olivier Krumbholz, les bleus ES du hand disputeront la médaille d'or aux grandes favorites norvégiennes ou aux russes, opposées tout à l'heure à partir de 14h dans l'autre demi-finale. Et puis tous les regards des passionnés de sport co seront tournés enfin vers le basket féminin qui disputera sa demi-finale à partir de 13h face aux japonaises.
Et avec sa place en finale dimanche, donc le handball féminin s'assure soit de l'or, soit de l'argent pour la délégation française, 31e médaille. Donc,
hein. Oui, et aujourd'hui en pentathlon moderne, Marie Otezza et Elodie Clouvel, vice-championne olympique à Rio, vont disputer dans quelques minutes la dernière épreuve qui consiste en un combiné tir-course pour espérer viser un podium. En escalade, Anouk Jobert participe en ce moment à la finale. Podium définitif vers 15h.
On termine sur la déception du marcheur Johan Diniz, le maudit des Jeux Olympiques.
Oui, il a abandonné cette nuit dans le 50 km marche avant le 30e kilomètre. Il avait pourtant bien commencé la course aux avant-postes, mais à 43 ans, le Rémois a été trahi par son corps. Comme en 2008 aux Jeux de Pékin, aux Jeux de Londres en 2012, il avait appris sa disqualification une fois la ligne franchie. Et aux Jeux de Rio en 2016, en tête jusqu'à la mi-course, il avait terminé dans la douleur à une 8e place, 150 km marche, à Sapporo dans le nord du Japon. Johan Diniz a jeté l'éponge après 2h15 d'effort. Sans doute la course de trop, a dit le champion du monde 2017, multiple champion d'Europe et détenteur du record du monde, qui tire donc sa révérence sur cette déception. Le 50 km marche disparaît du programme olympique pour laisser place à Paris en 2024 à une épreuve de marche par équipe mixte.
Corinne Boulou du service des sports d'Europe 1. 8 adolescents blessés dans un accident de minibus ce matin sur l'A75 dans le Cantal. L'un d'entre eux a été transporté en hélicoptère en urgence absolue. Le groupe originaire d'Amiens se rendait en colonie de vacances au Cap d'Agde. La rentrée dans moins d'un mois, déjà pour les étudiants, comme chaque année, ça veut dire la course à la recherche d'un logement. Peu d'offres et plus de demandes, toujours plus. Près de 3 millions d'étudiants vont faire leur rentrée. Or, la pandémie complique encore les recherches. Pour trouver un studio, une colocation, c'est un véritable parcours du combattant au CNTR.
Son entrée dans les études supérieures à Bordeaux, Jade l'attendait avec impatience. Mais comme beaucoup de ses amis, le rêve d'avoir son propre logement s'est confronté à la réalité du marché. En plus d'un mois de recherche, impossible de trouver une colocation avec son budget de 450 euros.
Comme je suis boursière, j'ai pas notamment un énorme budget. J'ai pas eu d'autre choix en fait de m'installer qu'avec mon copain parce que le budget s'est divisé par deux en fait. En plus, je voyais que ça approchait la rentrée. J'avais trop peur juste de me retrouver simplement à la rue, de pas pouvoir suivre correctement mes études à la rentrée.
Une angoisse amplifiée par le Covid. Cette année, de nombreux étudiants ne peuvent pas compter sur le salaire d'un petit boulot, explique Paul Maillot, président de la Fédération des associations générales étudiantes.
Le fait que les jeunes n'aient pas pu travailler pendant la période estivale va forcément impacter la question du logement, puisque c'est le premier poste de dépense chez les jeunes. Même si on a quand même la réouverture de certains lieux où des jeunes peuvent travailler, c'est pas la grande majorité.
Une situation compliquée, et cela ne devrait pas s'arranger en septembre à cause du flou autour de la rentrée universitaire. critères selon Marianne Offray. Elle est directrice de l'Union nationale pour l'habitat des jeunes.
Est-ce que oui ou non, les étudiants vont prendre le risque de louer un logement alors qu'ils ne savent même pas si la quatrième vague changera l'organisation des cours? Ça va être une rentrée très particulière en ce sens-là.
Pour elle, plus que jamais, la solution, ce serait de multiplier les logements sociaux destinés aux jeunes avec un loyer fixe pour les petits budgets.
L'été des festivals, l'un d'eux, et pas des moindres, fait son retour ce soir. Voilà pour ce lointain écho d'il y a 2 ans, le Festival Interceltique de Lorient annulé en 2020, mais fin prêt pour sa 50e édition qui s'ouvre demain dans une version allégée et sous passe sanitaire. Pas de parade en ville, pas de nuit interceltique, malgré un été toujours compliqué sur le front de l'épidémie. À Lorient, on tient quand même à marquer le coup, Nicolas Fellman.
Pour les Lorientais, c'est un événement à ne pas manquer, c'est un des piliers de la ville, puisqu'on se revendique et on est la capitale interceltique.
En 10 ans, UN, pur produit celte, n'a jamais manqué une seule édition du festival. L'attente fut longue, mais ce soir, c'est l'heure des retrouvailles.
Ça va avoir une saveur particulière du fait qu'on en ait été privé l'année dernière, ce qui était un grand déchirement. Et de le retrouver cette année, c'est une joie pour tous les Lorientais et ça permet de découvrir aussi cette culture pas assez mise en avant.
Pour cette 50e édition, les organisateurs ont dû alléger le programme. Pas de grande parade en costume dans les rues de Lorient cette année. Les concerts seront réservés aux seuls détenteurs du pass sanitaire. Quant aux délégations celtes venues d'Irlande, d'Écosse ou des Pays-Bas, elles ne seront représentées que par des porte-drapeaux. Lisandro Lombardia est un celte de la région des Asturies en Espagne. Il est le directeur du festival.
On a dû faire un exercice de funambulisme pour sauver une édition qui soit à la fois résistante et aussi avec une idée de confiance à l'avenir. Nous sommes vigilants, mais nous avons hâte de commencer.
Et cela commence dès ce soir avec 3 concerts en invité d'honneur. Les Irlandais du groupe Perfect Friction avec leur cornemuse, leur violon, des instruments typiques de la musique celte.
Voilà le 50e festival interceltique de Lorient à partir de demain donc et jusqu'au dimanche 15 août. Le millésime 2020 sera plus rare. La production de vin dégringole cette année jusqu'à 30% de moins en raison de l'épisode de gelée tardive au printemps dernier. La météo, Valérie Darmon, ce vendredi est une journée d'accalmie, dirait-on.
Et oui, et figurez-vous que l'Orient passe entre les gouttes, parce que les averses, et oui, elles défilent plus au nord, hein, du nord de la Bretagne et de la Normandie et Hauts-de-France jusqu'aux Ardennes. Elles sont poussées par un vent de sud-ouest assez fort, de 60 à 80 km/h à la côte. À l'inverse, de belles périodes ensoleillées se développent du Languedoc à la région PACA et jusqu'au sud de Rhône-Alpes. Et sur toutes les autres régions, les conditions s'améliorent doucement et le soleil refait quelques apparitions sous forme d'éclaircies, plus large d'ailleurs sur le centre du pays. Les températures, elles évoluent peu, elles restent assez basses pour un début août, on le sait. Les maximales varient entre 20 et 24 sur une grande moitié nord, entre 22 et 26 du sud-ouest au nord de Rhône-Alpes et 27 à 33 dans le Var et en Corse.
Merci Valérie, on vous retrouve à 13h pour un point complet.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Alexandre Lemaire.
L'invité d'Europe Midi, Olivier Moustakakis, bonjour.
Bonjour.
Cofondateur d'Assureland.com, numéro 1 français des comparateurs d'assurance. Cet été en France, on est plutôt épargné par les catastrophes naturelles si on se compare à nos voisins européens. Des inondations le mois dernier en Allemagne, en Belgique, des canicules, des vagues de chaleur et des incendies en Italie et en Grèce. Olivier Moustakakis, les assurances voient déjà gonfler la facture du changement climatique pour l'assurance habitation. C'est bien cela, hein?
Alors malheureusement, voilà, tous les experts s'accordent sur ce point. Les événements climatiques ne vont faire que s'accentuer, tant en termes de fréquence qu'en termes de coûts. Donc en effet, l'indemnisation va exploser dans les années qui viennent, dans le futur. Donc face à ça, aujourd'hui, on est face à un dilemme, c'est-à-dire que vous avez un régime qui avait été mis en place en 1982, qui est une spécificité française, le régime des catastrophes naturelles.
Oui.
D'accord. Qui est alimenté par une surtaxe qui est appliquée sur les contrats, notamment habitation, surtaxe qui aujourd'hui est à hauteur de 12%, mais qui malheureusement ne va plus suffire à payer et à indemniser les sinistres qui ne vont faire que s'amplifier dans les années futures.
Alors quand on parle des sinistres, justement, quel type de sinistres? Des sinistres liés aux inondations, aux tempêtes, à l'érosion des sols?
Exactement, et à la sécheresse aussi, n'oublions pas que la sécheresse, selon les prévisions des experts, le coût de la sécheresse est évalué à peu près 800 millions d'euros pour les années à venir.
Pour les habitations.
Tout à fait, et sans parler ensuite, parce que là on parle des particuliers, donc vous et moi, mais aussi il y a les agriculteurs aussi qui sont impactés, avec le régime des calamités agricoles, donc on est un petit peu tous confrontés au dérèglement climatique, c'est une chose, mais surtout parce qu'on met tout sur le dos du dérèglement climatique, aussi il y a la politique de plan d'occupation des sols qui a été une hérésie depuis des décennies. Pendant des décennies, on a fait un peu n'importe quoi, on a construit n'importe où et n'importe comment. Donc on paie aussi les pots cassés aujourd'hui.
C'est-à-dire aujourd'hui, il faut bien veiller à ne plus construire, par exemple, en zone inondable, trop près du littoral, qui est grignoté parfois par la mer.
Exactement, il faut aider aussi les gens à mettre en place des mesures de prévention, de protection de leurs habitations pour éviter justement les inondations. Donc il y a toute une mise en place de mesures de prévention, mais qui vont impacter et qui auront un impact sur le long terme. Ça ne va pas être, ça va pas avoir un effet immédiat. Donc là, aujourd'hui, la taxe qui est à 12%, elle permet de récolter 1,7 milliard par an pour alimenter le fonds des catastrophes naturelles. Mais malheureusement, les sinistres aujourd'hui sont à hauteur de plus de 2,2 milliards d'euros par an.
Ça ne suffit
donc
plus.
On voit bien que ça ne suffit pas.
On voit bien l'effet d'une inondation en termes de dégâts dans une maison, dans un logement. C'est peut-être moins clair sur la sécheresse. Expliquez-nous en quoi la sécheresse peut justement menacer la sécurité d'un logement.
Alors la sécheresse va faire bouger les sols, donc il va y avoir des fissures qui vont impacter en effet des bâtiments. Donc à terme, il va y avoir aussi des dommages et des indemnisations à la hausse aussi sur ce risque-là.
La hausse des primes, elle sera la même pour une maison individuelle et pour un appartement, justement ?
Alors, il y a des zones qui seront plus impactées que d'autres. Là, les experts prévoient que pour arriver à peu près à retrouver un équilibre sur le régime catastrophe naturelle, il faudrait passer la taxe de 12% à 18% dans les années qui viennent. Donc là, il y a un surcoût. Mais ensuite, malheureusement, il y a fort à parier que certaines zones soient plus impactées que d'autres. Et donc, il y a une inflation aussi des coûts d'assurance habitation au-delà de la surprime catastrophe naturelle. Parce que derrière, les assureurs ne pourront plus suivre par rapport au montant qu'ils doivent indemniser.
Oui. Et justement, vous parliez de variation d'une région à l'autre, d'un département à l'autre. Est-ce que vous voyez arriver, en termes de sinistres climatiques sur des habitations, des départements qui étaient jusqu'ici plutôt épargnés par ce type de catastrophe
d'événement ? Dans tous les départements qui sont proches du littoral, il y a une inflation qui est en train de se mettre en place, clairement. Après, il n'y a pas que les risques climatiques. Vous avez des zones qui sont plus chères que d'autres, notamment la région PACA et Île-de-France, parce qu'il y a une sinistralité, il y a plus de vols que dans d'autres régions. Il y a des régions qui sont plus épargnées, type la Bretagne, où les primes d'habitation sont moins élevées. Mais évidemment, toutes les zones proches du littoral vont être impactées.
Oui. Est-ce qu'on peut prendre peut-être, Olivier Moustakakis, un ou deux exemples chiffrés pour une maison de taille moyenne, par exemple, pour une famille, comment va évoluer, plutôt, puisqu'on y va, la prime d'habitation ?
Alors, sans faire de catastrophisme, mais selon les récents experts, que ce soit la CPR, la FFA ou d'autres experts qui ont fait un peu des modélisations sur l'augmentation des risques climatiques et justement des sinistres attachés à ces risques climatiques. En gros, aujourd'hui, la prime moyenne pour un appartement au niveau national, on est à 180 euros et pour une maison, on est aux environs de 250 euros. D'accord ? Certains entrevoient des coefficients multiplicateurs fois 2 ou 3 sur certaines régions, en raison de cette inflation des indemnisations sur les risques climatiques.
Oui, donc inflation sur les risques climatiques et explosion du coup fois 2 ou fois 3 sur la prime d'habitation.
Sur certaines primes d'habitation en fonction des zones, oui, tout à fait.
À ce rythme, beaucoup de foyers n'auront plus les moyens d'assurer leur logement.
Alors, le vrai risque, exactement, et vous posez la bonne question, c'est qu'au-delà d'un certain montant de coûts, il y a certaines personnes qui ne pourront plus s'assurer. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, il y a une vraie réflexion à mener, notamment sur le régime catastrophe naturelle, de savoir jusqu'où va la solidarité nationale. Parce que c'est un régime, en fait, où si vous avez une maison, par exemple, qui est placée en une colline, vous allez payer quand même une taxe pour alimenter le fonds catastrophe naturelle, alors que vous ne serez pas impacté par les inondations. D'accord ? Donc, vous allez payer pour d'autres qui seront proches des rivières. Donc, après, la limite de l'exercice, parce que l'État ne pourra pas de façon illimitée arriver à couvrir aussi les remboursements et les indemnisations, parce que les finances de l'État ne sont pas en bon état, si vous me passez l'expression. Donc voilà, donc après, le vrai sujet, c'est si on veut continuer à préserver ce régime, malheureusement, il y aura des mesures impopulaires, il va falloir réaugmenter la taxe et la surprime qui est cotisée par vous et moi, qui avons un contrat d'assurance habitation, pour pouvoir alimenter ce fonds toujours et toujours, et surtout mettre en place des vraies mesures de prévention, puisque les mesures de prévention avec le fonds Barnier, elles sont assez timides. C'est 200 millions d'euros par an, donc c'est pas assez.
Oui.
pour une vraie politique de prévention.
Olivier Moustakakis, les assurances, elles assurent bien contre les risques, c'est-à-dire contre des phénomènes aléatoires. Or, si ces phénomènes deviennent permanents, climatiques, ce ne sont plus des risques, ça veut dire plus d'indemnisation.
On est d'accord, c'est le principe de la mutualisation qui, à un moment donné, si tout le monde est impacté, ce qui avait été le cas notamment pendant la période de confinement quand il y avait la fermeture des restaurateurs et de l'ensemble des hôtels-restaurants où il y avait une énorme polémique là-dessus, si un risque n'est pas mutualisable, à un moment donné, il n'est plus assurable.
On n'a donc pas d'autre choix que de s'adapter, de faire de la prévention dans la façon dont les logements
sont
bâtis.
La prévention et le maître mot, arrêter de construire n'importe où, n'importe comment, et aider les gens à se protéger, aider aussi, donner les moyens peut-être aux personnes qui doivent être relogées dans des zones qui sont moins impactées. Voilà, mais ça, ce sont des mesures long terme qui auront de l'effet sur le long terme. Le court terme, malheureusement, ça va être une augmentation de la surprime catastrophe naturelle pour arriver à combler le déficit, parce que le fonds est déficitaire depuis plusieurs années.
Merci Olivier Moustakakis, merci. Cofondateur d'Assureland.com, 12h57 sur Europe 1. Dans un instant, le journal de 13h et Club Tokyo avec Lionel Rousseau.